Allume la science. La science.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Eh bien, imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
Une sorte de relativisme absolu.
Inversion complète de la charge des protons.
La Terre va entendre ces mots.
Allume la science.
Bonjour et bienvenue à tous et toutes dans Allume la science, l'émission qui vous branche chaque semaine sur l'actualité scientifique des laboratoires de MUSE, Montpellier Université d'Excellence. Selon l'Organisation Mondiale de la Santé, 39% des adultes dans le monde sont en surpoids et 13% sont obèses. En France, ce pourcentage monte à 17% chez les adultes et chez les enfants, 16% des garçons et 18% des filles sont concernés. Des chiffres à peu près stables depuis une dizaine d'années selon l'INSERM, à la différence des chiffres des chirurgies bariatriques qui, eux, n'ont cessé de crever le plafond ces 20 dernières années. Alors ces chirurgies, pourquoi les fait-on? Comment y accède-t-on? Et surtout, que révèlent-elles des catégories normatives à travers lesquelles l'obésité est perçue dans le milieu médical et dans la société plus largement? Quels mécanismes de domination sociale et d'incorporation de celles-ci sont au cœur du discours de ces futurs opérés? C'est le sujet d'étude qu'a choisi une équipe de chercheurs montpelliérains dans un article intitulé « Opération du poids et poids de l'opération » publié en 2021 dans la revue « Sciences sociales et santé ». Une enquête réalisée en partenariat avec le service de chirurgie digestive du CHU de Montpellier. Alors avec nous dans le studio aujourd'hui, Yann Beldam, bonjour.
Bonjour.
Donc vous êtes chercheur en anthropologie sociale et ethnologie au laboratoire Synthésie.
C'est ça.
Et Sylvain Ferrez, bonjour.
Bonjour.
Donc vous êtes sociologue et directeur adjoint de ce même laboratoire.
Exactement.
Bienvenue à tous les deux et merci d'avoir accepté notre invitation. À mes côtés, comme chaque semaine pour mener cette interview, Aline Perriot.
Bonjour.
J'ai pas fait de blague aujourd'hui.
Non, je te remercie.
En seconde partie d'émission, nous vous emmenons au CIRAD de Baillarguet où Sophie Ravel et Karine Hubert vous ouvrent les portes de l'insectarium. Allume la science, vous êtes au courant, c'est parti.
Chargement de l'engin terminé. Nous sommes à 0 moins 60 secondes. 59, 58, 57. 56,
alors, pour commencer, 55. Cette question de l'obésité, est-ce que vous pouvez nous dire quand elle apparaît en France comme un problème de santé publique? Alors, qui veut répondre à cette question? Sylvain?
Alors, une question compliquée.
Pour commencer, c'est toujours bien.
Bah oui, c'est bien. Commençons par compliqué, ce sera plus facile après. L'obésité devient un problème à partir du moment où elle est construite comme un problème de santé publique. Et il y a une rupture évidente, qui est une rupture institutionnelle, c'est qu'avant 1997, l'obésité n'est pas une maladie chronique, donc n'appelle pas de prise en charge particulière, si ce n'est comme facteur de risque, à développer des comorbidités, d'autres maladies, le diabète, les maladies cardiovasculaires, etc. Et donc, elle est pas proprement parlée une maladie. Ce qui veut dire qu'en 1997, il y a une décision, un choix de santé publique qui est de caractériser les populations ayant un IMC à un certain niveau comme étant malades chroniques et non pas porteuses d'un risque de développer d'autres types de maladies, et donc de les prendre en charge. Parce que quand on est un malade chronique, et ben forcément, il y a un parcours de soins qui se met en place. Et donc, on pourrait dire que même si l'IMC était suivi, était devenu un indicateur qui était stabilisé dans le milieu médical à partir des années 70, où il a été l'objet de multiples controverses, même si aux États-Unis, les systèmes assurantiels avaient commencé à poser la question des droits et de la nécessité de baisser la moyenne de l'IMC dans le pays.
L'IMC, excusez-moi, juste pour.
Alors, c'est l'indice de masse corporelle, c'est-à-dire c'est l'indicateur ou le seuil à partir duquel on considère qu'une personne est obèse ou pas d'un point de vue médical. Pour créer une maladie, ben, il faut avoir un indicateur, un seuil qui permette de faire un diagnostic. Diagnostic engageant, évidemment, l'entrée dans un parcours de soins. Donc, créer une maladie, c'est faire quoi? C'est trouver un critère objectivable de cette maladie. Et donc, l'IMC, longtemps controversé, à partir des années 80, s'est stabilisé, a été accepté par le milieu médical et a été appliqué petit à petit pour engager des politiques de santé publique, c'est-à-dire pour faire de quelque chose qui n'était pas un problème et pour faire d'individus qui ne se vivaient pas du tout comme des gens malades, des gens dont le médecin pouvait dire, après avoir pris cette mesure, vous êtes malade, vous devez faire quelque chose.
Alors, dans votre enquête, vous avez interrogé des personnes avant leur passage en chirurgie bariatrique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu rapidement en quoi ça consiste, ces opérations de chirurgie bariatrique? Alors, je ne sais pas, alors, Yann, peut-être.
Oui, alors...
Très brièvement.
Hein, très brièvement, parce que voilà, là, on entre dans le médical, ce n'est pas du tout notre domaine. Mais effectivement, alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est qu'au CHU de Montpellier, on opère surtout, on réalise surtout la sleeve, qui est une forme d'opération.
C'est mais quoi, une ablation d'une partie de l'estomac, c'est ça?
Tout à fait, ouais. Voilà, c'est ça. Et il existe aussi ce qu'on appelle le bypass, qui est une autre technique qu'on pratique beaucoup moins, en tout cas à Montpellier. Et voilà, ensuite, au niveau de la distribution de ces deux types d'opérations, je ne sais pas, Sylvain, mais c'est de l'ordre de... il me semble qu'il y a 80%, enfin en tout cas des opérations aujourd'hui
qui sont des sleeves.
Qui sont des sleeves ou des bypass.
Et qui sont des opérations qui permettent après pour le patient de perdre du poids rapidement. Il y a une perte de
tout
poids
à fait,
importante.
Tout à fait, voilà. C'est de l'ordre entre 25-30 kilos, ça peut aller bien au-delà. Donc il y a effectivement une perte de poids très conséquente après.
D'accord. Donc ces 20 dernières années, on l'a dit dans l'introduction, le nombre d'opérations, il est passé donc de 2800 en 97 à 15 000 en 2008, puis 60 000 en 2018, ça s'emballe complètement. Donc on apprend dans votre papier que la France est le troisième pays, après les États-Unis et le Brésil, à pratiquer le plus d'opérations. Est-ce que ça veut dire qu'on est... est-ce que c'est corrélé avec le nombre d'obèses en France? Est-ce qu'on est le troisième pays en termes de pourcentage d'obésité?
Non, ça n'est pas le cas, clairement. Et clairement, c'est une décision de santé publique, d'une certaine manière, de gérer la maladie par la panoplie des moyens utilisés pour gérer la maladie, dont la chirurgie est l'un des moyens. Et donc, ce qu'il faut comprendre là, c'est comment cette maladie, qui a été l'objet plutôt de réticence au début des pouvoirs publics, a été cadrée par la HAS à un moment donné, autour de 2008, peut-être, je crois, quelque chose comme ça.
La Haute Autorité de Santé Publique.
Et donc, d'une certaine manière, d'une solution qui était réservée à un petit nombre de malades, on l'a cadré pour en devenir une solution de santé publique, j'allais dire, plus étendue, plus acceptée, et comme une des manières qu'on pouvait utiliser pour maigrir. Voilà. Alors, attention, la chirurgie bariatrique, elle demande d'avoir une obésité sévère, c'est-à-dire un IMC qui est plus que celui de la simple obésité, mais qui fait penser qu'on arrive à des seuils qui la rendent morbide, premier point. Et deuxième point... elle peut être justifiée dans les recommandations de la HAS si jamais il n'y a pas d'obésité sévère ou morbide par des comorbidités. Et là, il y a tout un jeu, évidemment, lié aux relations avec le système médical, le médecin traitant, les gens eux-mêmes, pour essayer d'avoir l'opération soit en atteignant le niveau d'obésité et l'IMC qui permet l'obésité morbide. Il y a des gens qui prennent du poids pour accéder à l'opération, ça peut paraître paradoxal.
Justement, je vais revenir sur ce qui permet d'accéder à l'opération, parce que dans votre article, vous n'êtes pas forcément intéressé aux résultats des chirurgies, mais plutôt au discours des personnes qui allaient être opérées. En fait, vous avez rencontré les patients dans la période préopératoire. Pourquoi spécialement cette période-là, qu'est-ce que justement on demande comme critère aux patients, au-delà de ce critère médical, pour qu'ils puissent accéder à cette chirurgie?
Oui,
Yann.
Alors, peut-être pour préciser, c'est peut-être le moment aussi de préciser un point méthodologique et sur cette enquête. Effectivement, on a fait des entretiens donc avant l'opération. Mais il faut savoir qu'on a le but, en fait, l'enquête elle-même a duré beaucoup plus longtemps puisqu'on a fait trois séries d'entretiens. Donc une première avant l'opération, une deuxième 6 mois après l'opération et une troisième série d'entretiens 1 an après l'opération. Donc l'idée, c'était quand même de suivre des trajectoires médicales d'opération.
Donc sur 14 personnes.
Sur 14 personnes, tout à fait. Ces entretiens, ils ont été réalisés au domicile. Des personnes interviewées. On n'a pas voulu les faire justement à l'hôpital pour éviter de créer une ambiance, si vous voulez, une pression peut-être supplémentaire qui leur laisserait croire que ces entretiens étaient surveillés d'une certaine façon par le corps médical, ce qui n'était pas le cas, évidemment. En revanche, on a recruté ces personnes en collaboration avec le service du professeur Noka et donc du CHU de Montpellier. Et donc, on les a recrutés à l'hôpital. Donc, ça aussi, c'est une donnée importante. Et j'y reviendrai tout à l'heure parce que lorsqu'on a réalisé les entretiens, effectivement, on a été associés au départ, et en particulier lors de ces premiers entretiens, malgré tout et malgré nous, au corps médical. Donc, et sachant que c'était un contexte très particulier, puisque c'était un contexte préopératoire, où ils avaient eu l'accord pour être opérés, mais il y avait toujours la crainte chez ces personnes de ne pas pouvoir se faire opérer, et donc il y avait quand même un contrôle au niveau de leur discours, au niveau de ce qu'ils pouvaient nous dire.
Justement, dans votre article, donc, vous expliquez que dans ce parcours pour atteindre l'opération, ces gens, finalement, ils sont habitués à produire un discours attendu, par qui répond aux attentes du corps médical, en gros, de qu'est-ce que doit être un obèse qui accède légitimement à l'opération, et qu'est-ce que c'est qu'un obèse illégitime, entre guillemets. Oui. Comment vous avez réussi, vous, à essayer de les amener à déconstruire. Est-ce que c'était le but, d'ailleurs, d'accéder, vous parlez, donc de questionner la conscience verbale,
oui,
c'est-à-dire de les faire sortir de ce discours tout préparé, en fait.
Là, si vous voulez, c'est une précaution méthodologique, mais entre guillemets, tout chercheur en sciences sociales peut avoir, c'est-à-dire qu'on n'enregistre pas simplement des informations qu'on va nous donner, on s'intéresse à l'interaction que nous pouvons avoir avec ces personnes-là, et cette interaction, elle est analysable comme au même titre que n'importe quel autre. Donc, autrement dit, on essaie de réfléchir au contexte d'interlocution dans lequel on réalise notre entretien, et en essayant de savoir ce qu'on nous dit, finalement, on nous le dit dans un contexte particulier, donc on essaie de réfléchir à ça. Et on ne prend pas pour argent comptant ce qu'on nous dit, on essaie de réfléchir à pourquoi on nous dit ce qu'on nous dit. Et effectivement, dans ce contexte préopératoire, ce qu'on nous dit, c'est aussi et surtout qu'on veut être opéré. Et donc on évite d'aborder certains sujets, ou en tout cas on le fait avec précaution. Et donc toute notre analyse, elle porte là-dessus finalement. Elle porte sur ce corpus de discours qui ont eu lieu avant une opération, et dont il fallait finalement dire que voilà, on est apte, on est des patients légitimes, effectivement.
Alors, ces discours-là vous montrent aussi qu'ils sont façonnés par des trajectoires sociales et par le genre auquel on s'identifie. Juste pour rappeler, parmi les 14 personnes que vous avez interviewées, la majorité d'entre eux sont des femmes qui sont issues des classes populaires. Est-ce qu'on peut rappeler brièvement l'inégalité de la distribution de l'obésité dans la société ?
On peut la rappeler, elle existe, mais on peut déjà parler de l'inégalité de la répartition dans la chirurgie bariatrique, puisque cet équilibre dans l'échantillon correspond à peu près au 70-30, qui est la réalité de la chirurgie bariatrique.
Attention, il y a plus de personnes issues des milieux populaires.
Il y a plus de femmes, ouais. Et il y a plus de personnes issues des milieux populaires que dans la population générale. Et par rapport à la population obèse, c'est plus compliqué à répondre à cette question-là. Ça extrémise un petit peu la différence qu'il y en a la population obèse. Ouais. Sans doute. Parce qu'il y a un effet de l'opération elle-même et qu'il y a un effet de genre au regard de la question de la légitimité et de la capacité à utiliser ce moyen-là comme un homme ou comme une femme pour maigrir. Il est visiblement plus facile pour les femmes de recourir à ce moyen-là que pour les hommes, et les hommes ont tendance plutôt à ne pas vouloir devenir obèses et devenir moins obèses, et en général, ils le sont moins, et deuxièmement, quand ils le sont, à moins vouloir recourir à des moyens qui incarnent la passivité ou qui incarnent une posture plutôt féminine, eux étant plus attendus, il est plus attendu d'eux, pardon, qu'ils soient dans le contrôle d'eux-mêmes, et donc de ne pas se remettre comme ça entre les mains du chirurgien, et j'allais dire, la chirurgie est un échec à la masculinité beaucoup plus importante qu'il est un échec à la féminité d'une certaine manière.
D'accord, on va justement, donc ça fait plusieurs fois qu'on pose la question de la légitimité du patient, c'est en fait dans votre article vous montrez que finalement cette image du corps idéal comme un corps mince, elle correspond à des normes venues de classes dominantes, et qu'elle est reproduite par le corps médical, finalement qu'on a encore à travers le corps médical cette reproduction d'une représentation en tout cas socialement située.
Je ne suis pas sûr qu'on parle beaucoup du corps médical dans l'article. On montre plutôt l'intériorisation par les personnes ou l'incorporation par les personnes de ces normes dominantes qui sont entre autres véhiculées par le monde médical, mais pas seulement. Ça, je pense que c'est un élément important. Nous, on parle surtout du point de vue des sujets. Notre principal résultat, c'est que les sujets produisent des systèmes de justification un peu défensifs qui montrent, un, qu'il n'est pas facilement, moralement facile de recourir à cette opération. D'ailleurs, très souvent, avant, dans leur trajectoire d'obésité, quand l'occurrence ou la possibilité d'utiliser ce moyen est apparue, ils ne voulaient pas et ils considéraient qu'elle était moralement pas légitime. Deuxièmement, qu'en rentrant dans les parcours de soins, en se médicalisant, finalement, ils accèdent à cette opération, jusqu'au point de la désirer beaucoup, mais au prix de l'entrée dans un discours de justification qui transforme le regard sur elles, qui médicalise leur corps et qui, d'une certaine manière, montre à quel point ils ont incorporé les normes dominantes, c'est-à-dire pas tellement qu'il faille être mince, mais aussi qu'il y a des bonnes manières de maigrir et des mauvaises manières de maigrir. Et la bonne manière de maigrir, c'est d'être actif. D'ailleurs, que ce soit avec ou sans la chirurgie, et la suspicion que fait peser la chirurgie sur les gens, c'est d'être un moyen facile, d'une certaine manière passif, et d'une certaine manière, ce faisant, elle reproduit d'une certaine manière le stigmate qui est celui-là même de l'obésité. Autrement dit, le risque de la chirurgie pour les gens, c'est finalement de se voir réaffubler l'étiquette qui était celle qui était sur eux de manière obèse, d'individu fainéant, passif, etc.
Et qui ne contrôle pas leur corps.
Et la réussite de la chirurgie dépend d'un discours de conversion de soi qui montre qu'elle est une occasion, bizarrement, comme aurait pu être l'activité physique ou d'autres choses, de se convertir à une vie active, à un contrôle de sa vie, hein, et d'où l'étude longitudinale, et ben on voit que dans certains sujets, dans certains cas, les patients adoptent ce discours-là et arrivent à faire cette conversion, et on va plutôt vers des trajectoires heureuses, et dans certains cas, et ben non, ils n'y arrivent pas. Et on pourrait dire que l'entourage social et le regard social sur la chirurgie ne les aident pas à faire cette conversion.
Et justement, dans les discours, vous les avez interrogés sur différentes perceptions, le rapport au corps, le rapport aux autres, le rapport à l'alimentation, à l'exercice physique. Et vous avez noté que dans cette justification, il y avait plusieurs discours. Il y avait celui qui dit, en gros, c'est de ma faute, je mange mal. Mais il y avait aussi celui qui invoque des causes externes, la maladie, la génétique, le milieu social d'origine. Qu'est-ce que ça dit, ça, ce recours à ces deux discours différents ?
Yann Beldam.
Oui, ça dit exactement ce que disait Sylvain à l'instant, c'est-à-dire cette dialectique entre dont on a parlé, entre l'activité et la passivité, qu'il faut sans cesse faire la preuve dans le discours qu'on est actif, que ce qui nous arrive n'est pas de notre ressort quand on dit ça n'est pas de notre ressort, souvent il y a l'idée aussi derrière que on a tout fait, donc on a fait des choses, on n'est pas resté passif, on a essayé de maigrir, ça n'a pas marché, et à présent on va se faire opérer. Alors effectivement, il y a une suspicion sur l'opération dont parlait Sylvain, qui est une solution de facilité, ça on en a beaucoup parlé. Et donc tout le travail dans le discours de ces personnes, mais le travail qui est co-construit avec le corps médical, c'est vraiment de dire que cette opération, on attend du patient qu'il soit actif, c'est-à-dire qu'il se prenne en charge, c'est-à-dire que le chirurgien n'est pas un magicien, on leur répète assez souvent, etc. Il va falloir que après l'opération, vous repreniez le sport, vous changez vos habitudes alimentaires, etc. Tout ne va pas se passer sans votre concours. Donc, il va falloir vraiment mettre du vôtre. C'est vraiment le discours qu'on entend. Et donc, cette posture active, vraiment, elle est vraiment attendue dans le discours. Elle est attendue évidemment concrètement par les médecins. Et voilà, il y a vraiment cet élément qui est central dans le. C'est ce qu'on a mis en lumière.
Ce que vous montrez aussi, c'est qu'ils ont très peu recours à l'argument de l'esthétique. Finalement, très peu d'entre eux évoquent le fait de vouloir être plus beau. Qu'est-ce que ça révèle, ça ? Parce qu'on a le droit de vouloir se trouver plus beau aussi.
C'est toujours pareil, ça dépend où on est situé socialement, dans le rapport social avec qui, etc. Là, eux, vis-à-vis des médecins et vis-à-vis de nous, à ce moment-là où on les interroge, ils ne s'autorisent pas tellement à utiliser cet argument-là si on peut penser qu'ils se l'autorisent à l'utiliser par ailleurs. On a des terrains ethnographiques par ailleurs sur ces questions-là. On a d'ailleurs une thèse en cours dans le laboratoire qui travaille sur la période avant, sur la période de la prise de décision. Ça, c'est très important méthodologiquement. Ça veut dire que qu'est-ce qui nous permet de déconstruire ? C'est la relativité des situations et la capacité à produire des enquêtes où on interroge les gens et où on perçoit qu'est-ce que les gens produisent comme discours avant d'avoir pris la décision, au moment où la décision est prise, mais ils sont testés dans un parcours de soins pour y accéder, au moment où on leur dit « vous allez vous faire opérer », mais qu'ils attendent l'opération, et puis après. Et en fait, la réalité des dynamiques de discours et des logiques de légitimation sociale, c'est dans le décalage entre ces temps et ces positions qu'on l'aperçoit, puisqu'on s'aperçoit évidemment que c'est un jeu de discours qui est toujours socialement situé et qui répond à des attentes normatives, qui sont celles des situations dans lesquelles se trouvent les gens, au moment de la décision, souvent celle de la famille et de l'entourage proche, à qui on ne dit pas qu'on va se faire opérer, par exemple, et on va se faire opérer quand même, à qui on le dit tardivement, à quel copain, etc. Évidemment, dans la période de l'encadrement et de l'accès à l'opération, c'est-à-dire celle où on a rendu cette idée légitime, mais où il faut qu'on fasse ce parcours de soins, où on rencontre des psychologues, des diététiciens, qui vont vous mettre, vous savez, des feux verts, des feux rouges, et vous dire, vous aurez accès, vous n'aurez pas accès, attendez, il faut faire un petit effort, etc. Évidemment, dans cette période-là, on ne produit pas le même discours, et puis nous, on les a, là, dans les entretiens qui sont évoqués dans ce papier-là, on les a juste à la sortie de cette période-là, c'est-à-dire qu'on les avait recrutés, au moment où le médecin leur dit, ça y est, c'est une période d'un mois, c'est-à-dire on leur dit, la claque, dans un mois, vous vous faites opérer. Et évidemment, comme Yann l'a dit, il y a des traces de choses qui sont intéressantes dans ce temps-là et qu'on peut analyser, déconstruire, parce qu'on peut les mettre en perspective avec d'autres temps et produire par les études longitudinales ou par des études à des temps différents l'impact du moment, de la situation sociale et des contraintes qui font que fait peser sur les gens, sur les discours et sur les constructions normatives de ces gens.
Alors, très brièvement, pour terminer, vous avez du coup, comme vous l'avez dit, collaboré avec le milieu médical, avec les médecins pour cette enquête. Comment est-ce que le milieu médical a réagi à vos travaux et à votre publication ?
Qui veut répondre ? Yann, Balian ?
Oui, non, c'est très difficile pour le moment parce que l'article, finalement, est sorti il y a peu de temps et a été publié, en tout cas, sur Internet et accessible sur Internet depuis très peu de temps, je crois depuis moins d'un mois. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de retours pour le moment. Enfin, en tout cas, moi, je n'en ai pas eu. Je ne sais pas si, Sylvain, toi, tu as pu avoir des retours, mais...
Non, ce qu'on peut dire sur le milieu médical, c'est d'abord, on a pu faire cette enquête et ça n'a pas été facile. Donc ça, on peut en parler. C'est-à-dire dire quelles sont les conditions pour convaincre le milieu médical de faire une enquête de ce type. C'est compliqué. On nous pose tout un tas de problèmes éthiques, par exemple, pour produire nos conditions d'enquête. Il faudrait faire des comités d'éthique comme si on faisait des interventions invasives, alors qu'en fait, on va rencontrer les gens, que généralement, les gens sont très contents, qu'on leur garantit l'anonymat. Mais il y a tout un tas de barrières, en fait, liées au milieu médical pour produire ce type d'enquête. Deuxièmement, il y a une méprise dans les échanges entre les gens sur ce qu'est la recherche en sciences humaines et sociales avec le milieu médical. Et donc, l'enquête est une manière d'échanger. Évidemment, quand on a un service comme ça qui accepte, il est une manière de faire comprendre comment on travaille, de faire comprendre quel est l'intérêt des variations de position sur lesquelles on joue, quel est l'intérêt d'avoir des discours approfondis et des entretiens d'une heure et demie ou de deux heures plutôt que des questionnaires rapides. Mais rien ne va de soi dans le milieu médical. La manière d'envisager la science comme quelque chose d'unique et qui serait calé sur le modèle de la médecine, c'est-à-dire d'un objectivable qui ne serait pas la subjectivité des gens, et complique beaucoup la relation avec le milieu médical et la compréhension de nos travaux.
Je suis désolée, je vais vous couper là. Les 20 minutes passent extrêmement vite et on les a déjà dépassées. Un grand merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation et d'être venus dans les locaux de Divergence. Merci beaucoup.
Merci à vous. Merci beaucoup.
On passe maintenant à notre séquence reportage, direction le CIRAD de Baillargues. Moustiques, tiques, glossines, derrière les portes de l'insectarium, toute une équipe s'active pour nourrir, élever et faire se reproduire de charmants arthropodes indispensables à la recherche. Et c'est Sophie Ravel de l'équipe Intertrip et Karine Hubert du labo Astre qui nous font la visite.
Je suis Sophie Ravel, je suis chercheure à l'Institut de recherche pour le développement dans une unité mixte de recherche Intertrip et s'intéresse entre autres à la maladie du sommeil et la glossine donc est le vecteur en Afrique.
Je suis Karine Hubert. Je suis chargée de recherche INRAE à l'UMR Astre et on s'intéresse à développer une approche, une santé.
Pour entrer dans l'insectarium, qu'est-ce qu'il faut faire exactement ?
On passe d'abord avec un système de reconnaissance digitale et ensuite on passe à travers deux sas et on se retrouve devant la porte de la douche à air.
Donc là on est devant, c'est une espèce de cabine en métal.
Le cycle de soufflage va durer 30 secondes et il permet de, éventuellement, si on avait un insecte qu'on avait ramené de l'extérieur avec nous, de le décrocher. On arrive dans un endroit qu'on appelle le sas froid, où la température doit être en moyenne autour de 6-7 degrés. Les arthropodes, ils n'aiment pas le froid, surtout les insectes volants. Ils sont plus vulnérables pour qu'on puisse éventuellement les attraper. Après le sas froid, on entre effectivement dans la zone insectarium.
Donc on est en combinaison, en blouse, et donc là on se trouve où ?
Donc on a ici environ 100 mètres carrés de surface. Vous avez 4 pièces qui sont destinées à l'élevage. Alors on a ici des moustiques, des tiques et des glossines qu'on appelle mouches tsetse.
Voilà, donc on va commencer par les mouches tsetse. Donc la glossine, comme je l'ai dit, elle est vecteur de la maladie du sommeil chez l'homme et chez l'animal en Afrique. Et on a besoin de savoir comment on pourrait interrompre le cycle de développement du parasite dans la glossine pour interrompre la transmission.
Donc là, on est dans une toute petite pièce. Il y a des étagères. Et sur ces étagères, on voit des
cages. Voilà, des cages qui contiennent des glossines.
Ces glossines, elles sont infectées ou elles ne sont pas infectées?
Non, alors, dans tout cet insectarium, on n'a que des insectes qui ne sont pas infectés. Ici, il n'y a pas du tout de parasites. En l'occurrence, pour la glossine, c'est le trypanosome.
Vous avez combien d'animaux à peu près ici?
On doit avoir à peu près 3000 glossines. On a trois espèces différentes. Bon, elles sont toutes originaires d'Afrique, bien sûr. Donc, mais ce sont des élevages qui sont en place depuis, ben, pour Palpalis gambiensis, depuis 1972. Ce sont des élevages qui ont été mis en place par nos collègues de l'école vétérinaire de Maison Alfort. Ces élevages ont déménagé ensuite sur Montpellier quand le CIRAD Baillarguet a été mis en place dans les années 96, je crois.
D'accord, donc ça doit être une des plus grandes dynasties de mouches qui existent. Hein.
Voilà. Et il faut savoir qu'il y a très peu d'élevages de glossines dans le monde. Hein. Après, il y a des gros élevages en Afrique, puisque l'une des voies d'élimination qui est déjà utilisée, c'est le lâcher de mâles stériles qui vont s'accoupler avec des femelles de terrain et rendre la descendance inexistante.
Alors donc, ah oui, il y a un petit tiroir dans chaque cage.
Ouais, parce qu'en fait, la femelle, elle va accoucher de sa larve et la larve va passer au travers des mailles du filet.
Ah oui, on voit des petites...
Voilà. Ouais. Et donc pendant les deux premières heures de sa vie extra-utérine, elle est blanche comme ça et elle va pouvoir bouger et la larve va s'enfuir pour échapper aux prédateurs. Dans les heures qui suivent, elle va s'entourer donc de cette petite coquille qu'elle
devient... voit des noirs.
Voilà, celle-là elle bouge encore.
Ça accouche donc et combien de larves?
Alors en fait, elle s'accouple une seule fois, elle stocke les spermatozoïdes, il y a fécondation, il y a production de la larve chaque 10 jours. Et une femelle au maximum, elle va pouvoir avoir une descendance de 7 à 8 individus. Donc c'est une défaite taux de reproduction en fait.
Elles se sont tues depuis qu'on est arrivé, on n'entend plus le bzz bzz. Comment ça se fait?
On les dérange. Donc tous les matins, on récolte les pupes qui sont tombées dans les petits tiroirs là, et on les passe dans la salle suivante où il y a un petit peu plus en principe d'hygrométrie. La glossine, pour sortir, perce le bout de la pupe et elle sort. Et donc là, il faut les récupérer et les trier, c'est-à-dire les sexer. On a amélioré notre élevage parce qu'au départ, on triait comme ça, à température ambiante, c'est-à-dire qu'il fallait attraper avec des tubes les mouches. Évidemment, elles essayent de s'échapper. Et puis de regarder, de séparer les mâles et les femelles. Et là, maintenant, on a développé une table de tri à froid où on refroidit juste pendant peut-être 30 secondes, une minute les mouches. Donc elles ne bougent pas, on les attrape avec une pince souple. On les met là parce qu'après on les accouple et on les accouple dans des proportions bien définies. C'est-à-dire qu'on met un mâle pour trois femelles.
Tu peux peut-être expliquer comment vous les nourrissez?
On les nourrit sur membrane avec du sang de mouton. On les nourrit trois fois par semaine, ces mouches, hein, sinon elles ne survivent pas. Il faut que la température du repas sanguin soit 37 degrés pour mimer l'hôte. On a une plaque sur laquelle on étale le sang et par-dessus on met une membrane de silicone. Et par-dessus, on dispose les cages de glossine. Et donc les glossines vont piquer à travers la membrane du silicone qui mime la peau. En fait.
Nous sommes devant une nouvelle porte. Les cages sont plus grosses.
On rentre et c'est la nuit. Donc là, on élève des moustiques. C'est des moustiques qui piquent la nuit. Et au lieu de faire se lever le soleil le matin, là on le fait vers 14h pour qu'on puisse lancer des gorgements pendant nos journées de travail à nous, humains.
Quel est l'intérêt scientifique de ces moustiques-là?
C'est essentiellement pour étudier ce qu'on appelle la compétence vectorielle de ces moustiques vis-à-vis de certains virus. Pour ces espèces-là, c'est le virus West Nile ou le virus Ouzoutou.
On ne les connaît pas, ces virus, c'est des virus d'oiseaux.
Oui, c'est des virus d'oiseaux, les deux. Voilà, dans les cages, il y a des petits bacs d'eau pour que les femelles puissent pondre.
C'est des moustiques qu'on voit à la surface?
Alors, il y a des œufs. Et puis, on voit là des toutes petites larves.
Date de mise en bac, 20 octobre.
Et après, elles vont se métamorphoser en nymphes. Donc, ça va être comme une petite virgule.
J'en connais qui feraient des cauchemars. Et donc, là, l'objectif, c'est de faire de la reproduction aussi.
Voilà. Et après, donc, c'est les moustiques qui sont sortis de l'insectarium et emmenés dans un laboratoire, par exemple niveau 3, pour pouvoir faire des infections expérimentales avec du virus.
Alors là, c'est une autre...
pièce qui est dédiée à l'élevage des tiques.
Donc là, ça ressemble à un four, ce que vous venez d'ouvrir.
Ça, c'est une enceinte climatique. Donc pareil, c'est comme les pièces, hein, c'est régulé en température et humidité.
Qui fait 21 degrés dedans et une hygrométrie de 77. Oh les charmantes bébêtes!
On a des grosses femelles qui sont bien gorgées.
Mais elles sont énormes.
Donc, alors, on a par exemple Yaloma marginatum, qui est une tique qui vit en zone méditerranéenne. Elles sont potentiellement vectrices de ce qu'on appelle la fièvre hémorragique de Crimée. fumée Congo.
Pourquoi elles ne bougent pas comme ça
elles... Là, quand elles pondent, elles font plus grand-chose si ce n'est pondre, et après elles meurent. Et elles peuvent pondre jusqu'à 20 000 œufs. Ça se met en alarme. Les mâles et les femelles vont s'accoupler, donc vont faire leur repas de sang.
Mais elle ne fait qu'un seul repas de sang
Les tiques ne font qu'un seul repas de sang par stade. Là, il va y avoir des petites larves qui vont émerger. Ces larves, elles vont aller se fixer sur un hôte. Elles vont se nourrir de sang sur l'hôte. Elle va muer, se transformer en nymphe, faire un autre repas de sang. Elle va chercher un deuxième hôte. Et là, elle va se reproduire, s'accoupler, pardon, et puis se gorger. Une fois qu'elle est gorgée, bah, elle va digérer son repas de sang et pondre...
Elle mange plus après.
Ça leur permet d'avoir les protéines nécessaires pour développer la descendance.
Là, il y a 12 degrés, il n'y a rien là-dedans aussi. Qu'est-ce qu'elles font à 12 degrés ?
Puisqu'on étudie pourquoi et comment la tique s'est installée là, dans le sud de la France et éventuellement jusqu'où elle pourrait s'établir en France. Et donc, mon collègue étudie ses capacités de survie. Pour ça, il les place à des températures plus basses pour voir comment ces températures plus basses affectent leur cycle de développement.
Combien de laboratoires travaillent avec cet élevage-là ?
On est deux unités à travailler en direct sur l'insectarium. Et après, donc, on est membre du Vectopôle Sud, qui est un réseau de recherche et de plateformes sur les maladies à vecteurs humaines et animales et sur les ravageurs. On est aussi membre de Emergine, donc ça c'est aussi un réseau. Alors là, c'est plus d'animalerie.
Après, on est amené à accueillir aussi des collaborateurs qui sont intéressés pour travailler soit sur les glossines, soit sur les moustiques, soit sur les tiques. Et on est même amené à fournir des insectes dans d'autres laboratoires qui ont la structure pour les recevoir et pouvoir les faire émerger s'ils veulent faire des analyses particulières.
Et c'est d'ailleurs quelque chose aussi qu'on fait dans le cadre d'un projet européen infrastructure qui s'appelle InfraVec 2. Donc pour eux, ils viennent gratuitement et nous, on est financés par ce projet-là, par l'Union européenne. Voilà.
Parce que la dernière chose, c'est qu'un insectarium, ça coûte très 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 cher.
Oui, élever des insectes, ça se fait pas rapidement. Vraiment, c'est un gros investissement en moyens humains.
Allume la science, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à Adeline Flock pour la réalisation de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, restez branchés.
Allume la science. La science.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Eh bien, imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
Une sorte de relativisme absolu.
Inversion complète de la charge des protons.
La Terre va entendre ses mots.
Allume la science.